Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église, Radio Présence qui diffuse en direct la messe à la cathédrale Saint-Étienne ce dimanche 2 février à 10h30. Et nous allons à cette occasion consacrer toute cette émission aux paroisses cathédrales de Toulouse. Présentation dans quelques instants avec mes trois invités. Trois invités donc dans cette émission aujourd'hui. Bienvenue au père Simon d'Artigues, curé des paroisses cathédrales à Toulouse. Et bienvenue aussi à celle qui l'accompagne, Florence Elisabellard et Capucine Robin, toutes les deux très actives au sein des paroisses cathédrales. Je vais d'ailleurs commencer par vous demander quelles sont les activités que chacune d'entre vous y assure. Je pose d'abord la question à Florence Elisabellard.
Bonjour, je suis responsable du pôle catéchisme sur l'ensemble des paroisses et des écoles. Et je suis également investie dans le catéchuménat.
Capucine, Robin.
Je suis animatrice à l'aumônerie des lycées et je fais aussi également partie du noyau des soirées à l'Esprit-Saint.
Voilà, des activités sur lesquelles nous allons revenir un peu plus tard dans cette émission. On rentrera vraiment dans le détail de vos activités respectives. Je voudrais d'abord demander au père Simon de nous présenter les paroisses cathédrales, parce qu'il y en a plusieurs. Vous êtes curé en charge de plusieurs paroisses donc qui sont rattachées à la cathédrale Saint-Étienne depuis septembre 2015. En plus de la cathédrale, lesquelles avez-vous ?
Donc, ce sont quatre paroisses. La paroisse Saint-Étienne, donc, qui est celle de la cathédrale. La paroisse de la Dalbade, Notre-Dame la Dalbade, qui lui a été rattachée il y a longtemps. La paroisse Saint-Aubin. Et la paroisse Notre-Dame la Dorade. Ces quatre églises forment cet ensemble paroissial.
Quatre très belles églises en plus. Qui sont les prêtres, vicaires et éventuellement diacres qui vous assistent pour les messes et célébrations au sein de ces paroisses ?
Donc nous sommes trois prêtres. Donc l'abbé Vincent Durour qui est vicaire, l'abbé Jean-Jacques Rouchy qui est prêtre dans la paroisse aussi, et l'abbé Jean-Baptiste Oneda, jeune diacre, qui vient juste d'être ordonné diacre et qui est lui aussi affecté à la paroisse.
Donc vous êtes quatre.
Donc on est quatre.
Quatre édifices. Comment s'organise la paroisse? Autour de quelles équipes, en dehors des trois prêtres qui vous assistent dans ces paroisses?
Il y a donc une équipe d'animation pastorale qui met dans le gouvernement de la paroisse, qui réunit 8 laïcs, 8 catholiques, voilà, venant des différentes paroisses, venant des différentes sensibilités, des différentes responsabilités dans la paroisse, différents âges. On essaie en fait de composer une équipe qui soit représentative de toutes les réalités de notre paroisse. Et donc on se retrouve tous les 15 jours pour travailler ensemble. Ensuite, il y a dans chaque paroisse une équipe paroissiale chargée de la dimension vraiment locale de chacun des clochers. Essentiellement, c'est chargé de l'accueil et du lien entre les personnes en charge de la vie de l'Église. Puis enfin, il y a 14 pôles, avec des coordinateurs de pôles, 14 laïcs engagés. Donc voilà, Florence par exemple, chargée du pôle du catéchisme, un pôle catéchuménat, un pôle de communication, un pôle de charité, de prière, et tant d'autres, qui en fait représentent chacune des activités de la vie paroissiale. Et donc les coordinateurs de chacun de ces pôles s'engagent pour 3 ans. Et ces 14 coordinateurs de pôle, les membres des équipes paroissiales, les membres de l'EAP, les ministres de la paroisse et les responsables des grands événements, il y a un certain nombre de grands événements qui vont aussi structurer la vie de la paroisse, constituent le conseil pastoral qu'on réunit 2 à 3 fois par an pour donner les grandes orientations de la paroisse. En fait, l'EAP, elle sert, j'allais dire, c'est une espèce d'exécutif qui a le nez dans le guidon et qui travaille vraiment semaine après semaine. Le conseil pastoral, il aide à prendre un peu de hauteur et de regarder à 1 an, 2 ans, soit si la paroisse est dans la bonne direction, si elle est fidèle à la vision qu'on a établie il y a 7 ou 8 ans maintenant, et surtout s'il n'y a pas des orientations qu'on devrait prendre, parce que notre monde change, parce qu'il faut être à l'écoute de notre quartier, et le fait d'avoir un conseil plus nombreux, on est une cinquantaine, et on invite parfois d'autres personnes pour avoir des regards un peu extérieurs. Ça nous aide à travailler avec l'EAP. Voilà.
L'EAP, je traduis pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient peut-être pas forcément capté de quoi il s'agit, c'est l'équipe d'animation pastorale. Alors, comme on peut le voir, c'est très structuré. Est-ce que vous avez toute l'attitude, lorsque vous prenez en charge une paroisse ou des paroisses, en tant que prêtre, vous et vos collègues, si je puis dire, pour monter vos équipes et en définir la structure, les missions?
Alors, moi, je pense que curé, c'est le métier le plus libre de la Terre. C'est le plus beau, du coup. Bien sûr qu'on travaille comme collaborateur de notre évêque, Et on a un certain nombre de règles. En effet, il est bon d'avoir une EAP. Le droit canonique nous demande d'avoir un conseil économique. Et voilà, donc il y a un certain nombre de prérequis, qui aident au fonctionnement. Mais ensuite, la manière de les faire fonctionner, on a vraiment une grande latitude, une grande liberté pour ça. Moi, je n'ai jamais senti de pression sur moi. De fait, la paroisse fonctionne de cette manière-là. Je sais même que toutes les paroisses n'ont pas exactement le même fonctionnement. Chaque curé va ajuster selon ce qu'il est, selon ce qu'est sa paroisse, selon son histoire, selon les besoins de la mission.
Si j'ai bien compris, chacun de ceux ou celles qui sont responsables des 14 pôles que vous avez définis, ou en charge des 14 pôles que vous avez définis, s'engage pour 3 ans. C'est quand même dans la longue durée, et il faut renouveler tous les 3 ans. Ça ne doit pas être facile de trouver les bonnes personnes à chaque fois. Comment faites-vous pour ça? Vous lancez régulièrement des annonces, des demandes pour que les bonnes volontés se manifestent, ou vous préparez à chaque fois la suite?
Alors dans la paroisse, il y a 350 personnes au service, 350 serviteurs, et ça se renouvelle régulièrement. Et je suis loin d'être le seul à appeler des personnes à servir. Capucine a été appelée, elle appelle d'autres personnes, souvent d'ailleurs parce qu'elle connaît mieux des couples qui ont les bonnes aptitudes pour animer une veillée ou pour animer l'aumônerie. Florence appelle des catéchistes. Voilà. Mes appels, ils sont essentiellement pour les membres de l'EAP, c'est 14 coordinateurs de pôle et les membres des équipes paroissiales. En fait, ça fait une quarantaine de personnes que j'ai vraiment à appeler personnellement. Et là, ce n'est pas des appels à la cantonade, c'est vraiment des appels discernés, de personnes que je connais en général, puisque ça va vraiment être les personnes avec qui je vais collaborer le plus étroitement et qui vont être les prescripteurs pour la paroisse, pour la vision pastorale, pour ce qu'on veut vivre. Et donc, j'ai un accompagnement plus proche avec ces 40 personnes. Il y en a d'autres vraiment, c'est très délégué. Et chacun, on avait travaillé avec l'équipe d'animation pastorale à cette question justement de l'appel des serviteurs pour que ça ne repose pas sur 2 ou 3 personnes, mais que le plus grand nombre possible puisse appeler, se sente habilité à appeler. Et puis enfin, le fait que beaucoup se sentent habilités à appeler, ça permet d'abord d'étendre la mission. Vraiment simplement, moi comme prêtre, j'ai un petit réseau de relations. En fait, dans une paroisse, c'est un énorme réseau de relations. Le réseau de Florence, le réseau de Capucine, il est plus vaste que le mien, pour une question de tranche d'âge, pour une question de sensibilité, pour des questions... Voilà, donc c'est pas si lourd que ça, je trouve, d'appeler quand on le fait pas seul.
Oui, et de renouveler, donc, parce que si je comprends bien, vous disposez d'un vivier, mais un vivier qui se renouvelle de lui-même et qui s'enrichit très souvent.
Oui. Je pense que Capucine, vous êtes arrivée il n'y a pas longtemps à l'aumônerie avec ton mari, pas longtemps dans la paroisse même. Donc, de fait, il y a des nouveaux arrivants qu'on accueille. On ne leur saute pas dessus, bien sûr, on leur laisse le temps de rentrer. Et puis, on a bien vu, par exemple, que Capucine, son mari, était présent, souvent actif dans les veilles à l'Esprit-Saint. Et à un moment, je pense que ce n'est pas moi qui vous ai appelé, je pense que c'est Sam qui a dû vous appeler, je ne sais plus.
Oui, c'est Marie-Pascal.
Ou Marie-Pascal, voilà.
Oui, parce que c'est un vrai engagement, je le redis, hein, dans la durée, 3 ans, et une vraie responsabilité tout de même à chaque fois.
Oui, c'est une vraie responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que c'est bon qu'elle ne dure que 3 ans. Et 3 ans non renouvelables. Florence, elle est engagée depuis longtemps dans le catéchisme.
On peut basculer aussi peut-être d'un pôle à l'autre.
Enfin, voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire que, et c'est même assez sain, en fait, d'abord de sentir qu'on n'est pas propriétaire de la mission. Que cette mission, on la reçoit pour un temps donné. Et qu'on la laissera au terme, qu'elle ne nous appartient pas, qu'on pourra passer dans une autre mission. Et puis après, il y a des missions qui demandent un savoir-faire. Par exemple, celle de catéchiste ou de chantre, ça demande un vrai savoir-faire qui demande du temps. Donc là, sur ces apostolats, là, pour le coup, il n'y a pas de mandat. Pour moi, il y a une importance d'avoir un mandat sur les missions un peu liées au gouvernement de la paroisse pour ne pas enquister les choses, pour permettre que les choses se renouvellent aussi. Enfin, moi, ce que me disent les différentes personnes, c'est que ça va permettre de se donner pleinement pendant ces 3 années. Il y a un peu souvent une année découverte, une année de mise en œuvre, une année de transmission. Et donc voilà, et ça crée un appel d'air dans la paroisse, quoi.
Oui, et puis une synergie, j'imagine. Je me disais que les gens qui ont assuré une mission pendant 3 ans, c'est peut-être dommage après de se passer d'eux, parce qu'ils ont acquis une expérience, une connaissance de l'organisation de la paroisse et de ses équipes, dont il serait dommage de se passer à un moment donné. Donc c'est peut-être bien qu'ils puissent continuer à agir dans un autre domaine.
Oui, puis ils peuvent aussi... Alors, il y en a beaucoup qui agissent dans un autre domaine. Je vois, par exemple, je prends les coordinateurs du pôle famille.
Oui, parce qu'il y a un pôle famille
terminé, aussi. Mais ils continuent à faire de la préparation au mariage. par exemple, parce que ça leur plaît, parce que voilà, mais ils ne coordonnent plus l'ensemble des 15 couples qui aident à la préparation au mariage. Voilà, donc on peut continuer. Et puis il y en a pas mal aussi qui, dont je me dis qu'ils pourraient, et concrètement ils le font, servir aussi à d'autres endroits que dans la paroisse. Ils peuvent servir au sein du diocèse, dans une association, au sein d'un service diocésain. Et c'est sain et c'est bon, en fait, que la paroisse, elle n'épuise pas toutes les forces de sa paroisse. Elle peut aussi être un lieu d'envoi en mission pour d'autres missions. Il y a des charismes qu'on a acquis, dont moi je me dis qu'il est bon de les mettre au service d'un mouvement.
Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est dommage après de se passer d'énergie et de compétences comme ça, et d'expérience. En dehors de ces équipes et des missions que vous leur avez confiées, est-ce que vous avez mis en place d'autres activités ou actions spécifiques au sein des paroisses cathédrales ?
Alors oui, ça s'est fait progressivement, bien sûr, mais...
Vous êtes là depuis près de 10 ans.
10 ans, tout à fait. En fait, on a mis en place un certain nombre d'événements communs aux quatre églises, de manière à ce qu'elles se rendent compte que parfois, les églises d'une même paroisse ont tendance à
rester dans leur couloir.
Voilà, couloir. Et même, c'est vrai des églises, c'est vrai aussi de chacun des pôles. Le catéchisme reste au sein du catéchisme, le catéchuménat, le mariage... Et donc, on avait vu la nécessité de créer des événements. Donc, par exemple, une fois là, on a une messe unitaire qu'on célèbre aux Jacobins pour réunir les quatre églises. À la Pentecôte, on a une retraite. On part à Garaison pendant 3 jours pour vivre une retraite paroissiale. Le 29 mars, là, cette année, et tous les ans, on réunit tous les serviteurs de la paroisse pour une journée, au cas où, voilà, une journée de formation, de prière, de rencontre. Ben, toutes les deux, vous avez participé à un pèlerinage des mères, et tous les ans, on renouvelle autour de la Toussaint ce pèlerinage des mères avec ces 4 jours, une cinquantaine d'épouses de la paroisse. Ce pèlerinage des pères, on a aussi. C'est veillé à l'Esprit Saint pour vérifier en fait que tous les mois, on prie ensemble pour que ce soit bien l'Esprit Saint qui gouverne la paroisse. Et donc, on se retrouve une fois par mois, tous les paroissiens qu'ils veulent, pour prier, pour invoquer l'Esprit Saint. Voilà, donc ça, c'est des petits événements, mais qui sont assez structurants de la vie de la paroisse. On a aussi, par exemple, les prêtres et diacres de la paroisse se chargent une fois par mois d'une formation pour adultes, qu'on appelle Dieu en question. Chaque année, on prend un thème différent, et voilà, on a une soirée de formation pour continuer à former tous les adultes qui le souhaitent. Et puis mille autres choses qui peuvent aussi se mettre en œuvre.
Alors, c'est veillé à l'Esprit Saint, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que ça, je crois que c'est vraiment particulier à vos paroisses.
J'imagine qu'il y a plein de paroisses où il y a des veillées de prière.
Le faire une fois par mois, comme vous le faites régulièrement.
Alors ça, moi, c'est vraiment un désir que j'ai eu dès le début, en arrivant dans la paroisse, de se dire, il est bon qu'on se retrouve pour prier et pour confier toutes nos actions, que ce soit le catéchuménal, les lycéens, les futurs baptisés, et qu'on se retrouve ensemble, les futurs mariés, pour demander à l'Esprit Saint, à la fois de nous inspirer dans nos actions, et de le faire ensemble. Et concrètement, je crois vraiment que ça oriente l'action de nos paroisses. Ouais.
Ça a toujours la même forme, c'est veiller à l'Esprit Saint, elles ont toujours la même forme, c'est à intervalles réguliers, toujours le même jour, une fois par mois, je ne sais pas, le troisième jeudi, toujours le même horaire.
Alors c'est le jeudi, c'est 20h, 21h, ça tourne entre les paroisses. Et donc, selon les paroisses, selon que c'est à la Dalbade,
la
Dora,
de
Saint-Étienne, ça va être un peu différent. Par exemple, à la cathédrale, c'est beaucoup de louanges. À la Dorade, c'est très marial. À la Dalbade, c'est très eucharistique, parce qu'il y a l'héritage des servants de l'Eucharistie qui étaient présentes sur la paroisse. À Saint-Aubin, c'est beaucoup de l'intercession. Voilà. C'est marqué aussi par l'histoire de la paroisse. Mais l'objectif, c'est bien de prier ensemble, d'invoquer l'Esprit Saint ensemble.
Est-ce qu'il y a des actions spécifiques en direction des jeunes, voire des enfants ?
Alors, il y a la catéchèse.
La catéchèse, bien sûr.
La catéchèse, et au sein de la catéchèse, mais Florence pourra en parler. Cette année, par exemple, on a organisé des contes autour de Noël et du carême, des contes pour les enfants. Il y a un pèlerinage en début d'année. Pour les collégiens et les lycéens, on a des camps, et des pèlerinages. Présents sur la paroisse, on a la chance d'avoir... les 3 mouvements de scoutisme, les scouts de France, les scouts d'Europe, les SUF qui sont sur la paroisse accompagnés par les prêtres de la paroisse, la maîtrise de la cathédrale, les petits chanteurs, les servants d'hôtel, les servants de l'assemblée. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités pour les jeunes, j'allais dire de...
Et vous vous appuyez sur les forces vives dont vous disposez dans vos paroisses justement.
Oui, oui. De fait, c'est tous les...
Ça, c'est les richesses que vous avez où vous êtes là.
Ils sont dans la paroisse, oui. Ouais. Après, vous savez, il y a toujours des dynamiques vertueuses, c'est-à-dire que quand... une activité commence à prendre, elle appelle des nouvelles personnes, et quand on appelle, ça crée un mouvement de vie. Donc on le voit vraiment pour l'éveiller à l'Esprit Saint. le noyau, on a un peu ramé au début, et là aujourd'hui vous êtes une dizaine à porter la, s'éveiller la prière.
Merci pour cette présentation déjà très complète hein, des paroisses cathédrales, de leur organisation, de leurs activités. Nous allons la prolonger en seconde partie d'émission après une pause musicale. Je rappelle de nouveau que Radio Présence diffuse la messe en direct de la cathédrale Saint-Étienne ce dimanche 2 février à 11h. Nous allons donc écouter un extrait d'une messe, la célèbre grande messe en ut de Mozart. Il s'agit du Laudamus Te dans une version dirigée par Philippe Hervègue.
Église, Éric Dupri.
Nous revoici avec mes trois invités, le père Simon d'Artigues, Florence Elisabellard et Capucine Robin. Le premier est le curé des paroisses cathédrales à Toulouse et les deux autres sont très actives au sein de ces paroisses. Je rappelle une nouvelle fois que Radio Présence diffuse la messe en direct de la cathédrale Saint-Étienne ce dimanche 2 février à 10h30 et non pas à 11h comme je l'annonçais en première partie d'émission. Donc c'est bien à 10h30 que la messe débutera. Après la présentation générale des paroisses cathédrales et de leur organisation, nous allons nous intéresser à vos activités respectives à l'une et l'autre au sein de celle-ci. Florence Elisabellard, vous êtes donc responsable du catéchisme et accompagnatrice d'un groupe de catéchumènes. En quoi consiste votre rôle et comment cela fonctionne-t-il ? On va commencer d'abord par le catéchisme, bien sûr.
Alors, je suis d'abord catéchiste et en même temps, je suis responsable du pôle. Donc, je coordonne, je me mets au service à la fois de toutes les catéchistes et des familles sur l'ensemble donc, de quatre paroisses et pour les quatre écoles qui sont rattachées également à notre ensemble.
Combien de personnes enseignent le catéchisme au sein
des
paroisses cathédrales ?
Une vingtaine de catéchistes toutes les semaines, ou presque. Et autour de ces personnes-là, quelques personnes qui vont intervenir plus ponctuellement. Donc là, une petite dizaine de personnes.
Ça se déroule où et à quels horaires ?
Alors, les horaires dans les écoles, c'est ou bien intégré à la scolarité ou bien entre midi et deux. Pour les paroisses, donc, c'est après les temps d'école, on récupère les enfants à la sortie des écoles publiques. Et donc, juste après 16h30, 17h. Les journées sont réparties dans la semaine en fonction des paroisses. Actuellement, c'est lundi, mardi et vendredi.
Combien d'enfants suivent les cours de catéchisme ?
Alors, si je compte tous les enfants qui sont en école et catéchisés, on arrive pratiquement à 900 enfants.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme. Après, tout dépendra des groupes, tout dépendra des écoles.
Pour 20 personnes qui dispensent les cours ?
C'est ça, tout à fait.
Ça paraît peu, comme ça.
Ça paraît peu, mais après, bon, dans les écoles, c'est organisé. Au niveau des catéchismes, ça va.
Vous recherchez tout de même des gens pour renforcer l'équipe ?
On est toujours preneur de personnes qui arrivent. Chaque année, il arrive des nouvelles personnes. Cette année, on a eu des sœurs qui sont arrivées pour nous aider dans cette tâche, dans cette mission. Et oui, oui, ça se renouvelle régulièrement.
Alors, on va parler des catéchumènes maintenant.
Oui.
Comment vous les accompagnez ? Là aussi, vous avez une équipe, je suppose.
Alors, personnellement, je suis ce qu'on appelle Anani. Donc les ananis sont ceux qui vont catéchiser plus directement les catéchumènes. Donc je suis dans un groupe qui accueillait au départ 12 catéchumènes. Et là, actuellement, nous sommes deux accompagnateurs. Nous nous retrouvons tous les 15 jours au presbytère, dans une salle. Et nous avons une rencontre qui dure autour de 1h30, à peu près.
Donc des groupes de 12, c'est ça, 12
voilà,
catéchumènes.
C'est ça. Mais ce n'est pas la seule chose. Hein. Après, les catéchumènes ont un autre accompagnement avec ce qu'on appellera des Barnabés qui vont les suivre individuellement.
Qu'est-ce que c'est, les Barnabés ?
Ce sont les personnes qui les intègrent dans la communauté, qui les aident à trouver leur place dans la communauté. Voilà.
Alors ça, je crois que c'est quelque chose, Père Simon, vous le confirmerez, vous veillez beaucoup à ce que tout le monde trouve sa place, que ce soit ceux qui participent à vos équipes ou ceux qui reçoivent l'enseignement.
Alors, c'est un grand, oui, c'est un grand souci que tout le monde soit accueilli, se sente accueilli et trouve sa place, c'est-à-dire sache pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va vivre, voilà.
Et avec qui ?
Et avec qui ?
Les catéchumènes, vous en accueillez combien cette année ? Je crois que c'est un chiffre énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, d'ailleurs.
Alors, le chiffre, c'est un nombre. Hein,
oui, pardon.
138, mais peut-être qu'à cette heure-ci, c'est 139 ou 140. Ça bouge sans arrêt. J'ai souvenir de certains dimanches où, en sortie de messe, on avait 4 ou 5 demandes d'inscription au catéchuménat. Donc voilà, là, actuellement, 138, 139.
Et est-ce que c'est un nombre qui est en évolution constante ?
Alors, c'est un nombre qui est en train de grossir. Pour les matheux, c'est exponentiel. Hein, ça grandit sans arrêt.
C'est-à-dire depuis
récent.
Des années, chaque année, il y a un palier supplémentaire
là,
qui est
là,
franchi
là, depuis,
et ça ne se dément pas.
Depuis l'an dernier, c'est vraiment une grosse arrivée de catéchumènes et ça continue.
C'est-à-dire cette année, vous annoncez 139, mettons 140. Mm-hmm. L'an dernier, vous en avez eu combien ?
L'an dernier, c'était 50. L'année d'avant,
oui,
c'était 20.
Ça, oui.
c'est en ça qu'on dit que c'est exponentiel.
C'est vraiment exponentiel, c'est le cas de le dire.
Oui.
C'est vraiment impressionnant. Vous avez des explications à cette évolution, comme ça, exponentielle ?
Alors, c'est le Seigneur. Hein. Ça, c'est sûr que c'est le Seigneur qui va chercher les cœurs. Ce que disent les catéchumènes, parce que j'ai pas d'études sociologiques, mais c'est d'abord qu'ils ont une soif de Dieu, en fait, que personne ne leur parle de Dieu, que... On est dans un monde assez matérialiste et parfois même un peu désespérant. Et donc, cette soif, il se tourne vers Dieu, quoi. Il y a aussi, pour certains, un côté un peu identitaire. C'est-à-dire, qu'il s'agit toujours de convertir, mais on accueille les gens tels qu'ils sont, comme ils arrivent. Et donc, ils trouvent dans l'Église quelque chose qui va donner un sens à leur vie.
La fameuse quête de sens dont on parlait dans notre société, dans une société effectivement matérialiste et pour beaucoup de personnes un peu désespérante. Est-ce que cette évolution est constatée dans l'ensemble des paroisses à Toulouse, du diocèse de Toulouse ?
Oui, je crois, oui. Je crois que dans toutes les paroisses de Toulouse, et de France, hein, d'ailleurs, c'est le cas. Nous, c'est particulièrement marqué, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous, on cherche vraiment à bien les accueillir. Mais ce n'est pas un phénomène qui serait propre à la cathédrale, quoi. C'est vraiment...
Et c'est des profils très différents, les gens qui viennent vers vous ?
Alors, oui, des profils très, très différents. En âge, on a quand même des jeunes. Hein. Voilà, moyenne d'âge autour d'une 25-30 ans. Quelques personnes qui sont plus âgées. Si je prends mon groupe, on a des profils très différents avec des personnes qui ont fait des études, des personnes qui n'ont pas fait d'études, des hommes, des femmes, c'est vraiment des personnes qui cherchent depuis longtemps, des personnes qui cherchent depuis peu mais qui ont fait le pas très vite. Oui, c'est très différent.
Et c'est des gens qui viennent vous voir directement, si je puis dire, frapper à votre porte ou qui vous sont amenés par d'autres personnes qui connaissent déjà les paroisses, vos équipes, voire le Père Simon?
Alors, ça peut être des personnes. Moi, j'ai vu par exemple des nounous qui amenaient les enfants au catéchisme et qui finissent par, pour elles-mêmes, demander un sacrement. Des personnes qui sont rentrées dans une église et qui ont senti une ambiance, qui sont senties touchées par cette église. Des personnes amenées par d'autres.
On a mis en place, là, il y a 2 mois, une petite enquête. On a laissé traîner dans notre église des petites cartes avec marqué « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et un QR code. Et on les a laissé traîner. J'ai dit au sacristain « Mets-en sur les bancs, près des cierges. » Et au départ, nous, on voulait sonder les personnes. Et en fait, depuis Noël qu'on a lancé ça, il y a 21 catéchumènes qui sont venus par ce biais-là. 19. Enfin, je ne sais plus exactement.
C'est une vingtaine, qui sont venus.
Et donc, ça dit bien que, en fait, ils sont rentrés dans l'église. Mais pour eux, aller trouver quelqu'un, c'est un pas énorme. Alors que la médiation d'un petit carton, d'un QR code, d'un petit questionnaire, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et ils ont fini par demander le baptême, rencontrer quelqu'un. On leur permet toujours de rencontrer Guy, Marie-Josée, qui sont chargés de cet accueil. On voit bien que les moyens par lesquels ils viennent sont les moyens dont le Seigneur se sert. Mais on a besoin de tendre la main. Et notre site, il y en a beaucoup qui viennent simplement par le site.
Et un parcours de catéchuménat, c'est 2 ans avant le baptême, en règle générale, ou ça peut être très variable?
C'est en général, oui, entre 18 mois et 2 ans, il faut le temps de cheminer, il faut le temps de passer des étapes de discernement, et puis surtout laisser la liberté aux catéchumènes.
Voilà, il faut que chacun puisse aller à son rythme, si
je puis dire. À son rythme, tout à fait. Donc on ne peut
pas forcer les choses.
On est très adaptable à ce niveau-là, il faut être très agile en fait.
Et est-ce qu'en règle générale, les gens qui commencent le catéchuménat vont au bout? Ou est-ce qu'il y a certains qui abandonnent en cours de route?
Il y a toujours quelques abandons, mais
c'est rare. C'est
très rare, oui, c'est très rare. C'est très rare.
Eh bien, on va maintenant se tourner vers Capucine Robin. Donc vous êtes animatrice de l'aumônerie et lycéenne et membre du noyau veillé de prière, on y viendra dans un second temps. Concernant donc la première de vos activités, combien êtes-vous à animer l'aumônerie lycéenne dans les paroisses cathédrales?
On est 4 couples, plus une frate de catéchumène avec une animatrice. Et ça se passe bien. Il y a une grande aumônerie où on se rejoint donc une fois par mois dans la cour de la cathédrale. Et une fois par mois, on se rejoint chez chacun des foyers pour recevoir en petite communauté chacun des jeunes.
Alors ça, c'est quel jour ça se passe?
Le mardi soir.
Le mardi soir.
Donc 2 mardis soirs par mois.
2 mardis soirs par mois. Et ça dure, c'est quoi? C'est 2 heures
Oui, c'est 19h30, 21h30.
Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir, des lycées, de plus en plus aussi, comme les catéchumènes?
Oui, du coup, on a commencé à 30 et maintenant on est à peu près une cinquantaine. Enfin, ils sont une cinquantaine. Et c'est vraiment beau de voir leur interaction. On met vraiment en place un système d'accueil où chacun a sa place et les rôles tournent. Et le but, c'est vraiment de pouvoir accueillir chacun des jeunes, même s'il vient comme d'habitude, quoi.
Est-ce que vous en avez de plus en plus aussi? Parce que ceux qui viennent en amènent d'autres?
Oui, souvent, ceux qui sont venus
là aussi,
disent...
Là aussi, il faut faire le pas.
Souvent, c'est vraiment des jeunes de leur classe, des camarades qui leur ont parlé et ils ont franchi le pas de venir à l'aumônerie après. Ouais.
Est-ce que vous recherchez d'autres animateurs pour l'aumônerie? Est-ce que vous êtes assez aujourd'hui, mais est-ce que devant le nombre de plus en plus important là, de jeunes qui viendraient vous voir, il faudrait peut-être que vous soyez plus?
Sans doute, oui. Pour l'instant, on fonctionne parce qu'on a sizé de la même façon pour que ça fonctionne, mais... C'est sûr qu'à terme, il faudra plus d'animateurs.
Et oui, je vois que vous êtes en recherche de bonne volonté un peu dans tous les domaines, ce qui n'est pas étonnant, et surtout vu le succès que rencontrent les activités que vous proposez. Alors, l'éveillé de prière, quand vous dites que vous faites partie du noyau de l'éveillé de prière, qu'est-ce que ça veut dire, le noyau?
Ça veut dire que la veillée de prière s'organise un peu avec une équipe de musiciens et une équipe, on va dire, d'intercesseurs qui vont prier en amont de la veillée, donner un peu les directives aux musiciens sur l'orientation de la veillée, vers quelle démarche on va se tourner. Et c'est aussi, en fait, finalement, beaucoup d'improvisation et de communication au sein des personnes qui sont dans le noyau et qui sont, en fait, là juste pour intercéder pour que la veillée se fasse vraiment sous le signe de l'Esprit-Saint.
Vous parlez vraiment d'improvisation. C'est une improvisation en fonction de quoi? Du public que vous avez
Non, je pense vraiment que ça dépend les paroles qu'on reçoit, ça dépend... Ce qui est vraiment capital, c'est le temps de prière qu'on a tous ensemble avant la veillée. Enfin, on se rejoint une heure avant pour avoir le temps de mettre en place les musiciens et vraiment prier ensemble. Et c'est pendant ce temps de prière où chacun ouvre son cœur, écoute ce que l'Esprit veut dire. Et à ce moment-là, on arrive à, on va dire, démêler un peu une vision, une démarche et arriver à ce qu'on pourrait faire de la veillée. Mais après, c'est pas forcément figé. Ce qu'on a reçu dans la prière continue à maturer pendant la veillée et c'est possible qu'au dernier moment, ça change de direction.
Vous cherchez aussi des musiciens, alors, sans doute, pour vos veillées de prière.
Oui. Pour l'instant, l'équipe est toujours performante, mais oui, je pense qu'ils cherchent toujours des bonnes volontés, parce que c'est quand même prenant.
Père Simon, là-dessus, vous avez des appels à lancer, peut-être?
Bah, de toute façon, tout talent sera le bienvenu. Après, il s'agit de
talent,
compétence, voilà, de discerner l'endroit où il va pouvoir servir au mieux. En fait, il ne s'agit pas tant, pour moi, de remplir des cases dans une paroisse, c'est-à-dire on a absolument besoin de catéchisme.
C'est la bonne volonté au départ.
Et oui, puis ce à quoi le Seigneur appelle la personne. Si vraiment la personne est appelée à servir quelque part, c'est pas pour boucher un trou en fait. En fait, il y a des activités qui peuvent mourir dans une paroisse, c'est pas dramatique. Voilà. S'il y a vraiment personne, on va pas mettre quelqu'un qu'on va tirer à tout prix à tel endroit, donc il faut vraiment que la personne elle se sente de servir à cet endroit-là et elle le fera bien. Si jamais elle le fait par obéissance, alors parfois ça peut être beau et bon, hein, mais. Moi, j'aime pas trop dire, voilà, on en a besoin de telle ou telle chose. Le Seigneur, il sait aussi donner ce dont il veut doter la paroisse, quoi. Enfin,
oui,
son église.
Et on en revient à cette notion, il faut que chacun se sente à sa place, là où il intervient, là où vous lui demandez en tout cas d'intervenir. Alors, je me demandais, vous qui coordonnez a priori toutes ces équipes, est-ce que vous faites vraiment confiance, vous déléguez beaucoup, ou est-ce que vous êtes quand même très présent pour veiller à ce que tout se passe selon ce que vous souhaitez?
Bah, je suis présent pour accompagner les personnes. Je crois que j'arrive à déléguer. Vraiment, je le crois.
Vu l'ampleur de la tâche, je pense qu'il vaut mieux.
Moi, je fais confiance aux personnes que je connais aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas confiance tout de suite.
A priori.
Les personnes, c'est 50 personnes du conseil pastoral. C'est des personnes que je connais bien, que j'ai appelées. Et eux, vraiment, j'en fais confiance. Et après, je les accompagne plus particulièrement, ces 50-là. Je n'accompagne pas directement les 350 serviteurs de la paroisse. Alors moi, je suis plus engagé, par exemple, dans le catéchuménat ou à l'aumônerie du lycée. Le père Vincent est plus engagé du côté du collège et de la charité. On a peu parlé de toutes les activités de charité. Elles sont nombreuses sur la paroisse. Le père Jean-Jacques est plus engagé du côté de...
Pardon, Jean-Jacques Rouchy.
Jean-Jacques Rouchy est plus engagé du côté de la formation, de la formation liturgique aussi. Jean-Baptiste Oneda est plus engagé du côté des jeunes pros. Donc, et là, pour le coup, c'est vrai que moi, j'accompagne vraiment moins ces lieux qui sont... Moi, j'ai vraiment confiance dans les personnes que j'ai appelées. Et le fait de les accompagner aussi, de se voir régulièrement, ça aide à vérifier qu'on est dans la bonne direction.
Oui. Les lycéens qui viennent à l'aumônerie, des paroisses cathédrales, viennent surtout des établissements qui sont en périphérie immédiate, de la cathédrale de Saint-Aubin, d'Adora, de la Dalbade, ou ça vient d'un peu partout à Toulouse?
Moi, j'aurais tendance à dire un peu partout. Et souvent, entre guillemets, leurs parents sont aussi à la paroisse et du coup, ils viennent aussi à l'aumônerie.
Oui, il y a quand même un lien préexistant.
Ça peut avoir un lien. Et après, souvent, c'est vraiment... On leur en a parlé au lycée, donc ils viennent.
On revient à la messe de ce dimanche à la cathédrale, donc, qui, je le répète, va débuter à 10h30. Est-ce qu'elle a une dimension particulière, cette messe? Ou est-ce que c'est une messe comme il y en a chaque dimanche?
Alors, c'est la messe de la présentation du Seigneur, donc c'est la chandeleur. Et c'est la messe de la vie consacrée. C'est la fête de la vie consacrée. Hein. Nous, on a la chance d'avoir sur la paroisse 4 communautés religieuses, voilà, qui sont d'ailleurs quasiment toutes engagées dans la pastorale paroissiale. Donc, il y a les sœurs de Notre-Dame de la Paix qui sont à l'évêché, qui sont engagées l'une au catéchuménat, l'autre au catéchisme, et la troisième à la chorale. Les petites sœurs de l'agneau qui sont engagées dans les services de charité. Les dominicaines de Monteil qui sont engagées, donc il y a une sœur qui est engagée dans l'équipe des funérailles et au catéchisme, et puis les dominicaines du Saint-Nom de Jésus qui sont engagées, elles, à l'école et au collège Saint-Thomas d'Aquin.
Alors, il y a la messe donc du 2 février, et puis il y a d'autres événements à venir. Quand on regarde l'agenda sur le site des paroisses cathédrales, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des événements dans les semaines ou les mois à venir que vous souhaitez un petit peu mettre en avant pour que ceux qui nous écoutent puissent éventuellement y assister ou y participer?
Alors, en effet, il y a beaucoup d'événements. J'allais dire, les événements qui vont arriver, on va voir l'entrée dans le carême, qui n'est pas tout de suite, mais...
qui va arriver rapidement.
Qui va arriver assez rapidement quand même, et c'est toujours un temps fort, un temps de conversion pour les chrétiens. Donc on organise toujours pour rentrer dans le carême une nuit d'adoration, de veille auprès du Seigneur. Et puis tout un tas d'événements pour le carême. Je disais, on a cette journée des serviteurs le 29 mars. On aura une troisième entrée en catéchuménat. On en a eu une en début d'année avec une trentaine de personnes, une trentaine à nouveau en janvier. Et là, au mois de mai, il y aura peut-être 50-60 catéchumènes qui vont rentrer en catéchuménat. Il y a toutes les étapes, hein, les scrutins du catéchuménat qui vont arriver eux aussi pendant le temps du carême. La prochaine veille à l'Esprit Saint, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est exactement, mais elle sera... En tout cas, voilà, c'est veille à l'Esprit Saint. Et là, celle qui d'ailleurs sera au tout début du carême sera une veillée à tonalité pénitentielle. Voilà.
Ça sera la thématique de celle-ci, en tout cas.
Le jeudi oui. 13.
Vous parlez des scrutins, les étapes du catéchuménat, parce que comment ça se rythme, un parcours de catéchuménat? Je ne vous ai pas posé la question, mais ça me semble important pour ceux qui nous écoutent et qui seraient éventuellement tentés d'y entrer.
Alors, il y aura d'abord l'entrée en catéchuménat. Donc, il se fait au début du parcours, très, très marquante, parce que les catéchumènes vont montrer qu'ils veulent entrer dans l'église, concrètement en tapant à la porte de l'église depuis l'extérieur, et ils seront accueillis par le père et puis toute la communauté. Puis, il y aura ensuite, donc, vous en parliez, la préparation à l'appel décisif, à quelques mois du baptême, où les catéchumènes vont remettre une lettre... d'intention à Monseigneur. Donc ça s'est fait dimanche dernier. Et ensuite, pendant le carême, il y aura trois dimanches, donc, ou samedi, où il y aura ce qu'on appellera les scrutins, où les catéchumènes vont laisser le Seigneur scruter leur cœur, je parle sous le contrôle du Père, scruter leur cœur et sur les dernières étapes, avec des textes bien particuliers, choisis dans l'évangile de Jean, donc la Samaritaine, la guérison de l'aveugle né et la résurrection de Lazare. Donc trois textes qui vont leur permettre de finir, de laisser le Seigneur préparer leur cœur à la vigile pascale où ils seront baptisés.
Voilà. Alors les 140 catéchumènes, je me posais la question, que vous accueillez cette année, c'est ceux qui sont en cours de catéchuménat ou c'est ceux qui sont manifestés cette année?
Oui, de fait, il y en a une partie qui vont être baptisés à la vigile pascale 2025. Puis il y a ceux qui commencent le chemin et qui seront baptisés en 2026.
Les 140, c'est ceux qui sont sur le chemin, quelle que soit l'étape,
l'étape
concernée. C'est l'ensemble dont vous avez, si je puis dire, la garde aujourd'hui, parce que c'est un peu ça tout de même. Bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir participé et de nous avoir présenté les paroisses cathédrales et leurs très nombreuses activités. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je signale qu'il existe un site internet www.paroissecathédraletoulouse.fr, paroisse au pluriel, pour vous renseigner plus en détail, vous informer. Et je rappelle que Radio Présence diffuse la messe en direct de la cathédrale Saint-Étienne ce dimanche 2 février à 10h30. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Excellente journée à tous, à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.